Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir, bienvenue dans cette édition de 18h30, temps universel du mardi 26 mars 2019. Abdourahman Diaye et John Lyndon à la présentation. On commence par le titre.
Libération au Burundi de 3 élèves qui étaient accusés d'avoir gribouillé une photo du président Pierre Nkurunziza.
En Algérie, le chef d'état-major de l'armée veut que le président Abdelaziz Bouteflika soit déclaré inapte.
Aux Comores, les résultats du premier tour de la présidentielle sont toujours attendus, mais dans un climat de tension.
Le président chinois Xi Jinping poursuit sa tournée en Europe. Le commerce est au centre des discussions.
Ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports. Mais tout d'abord, le journal.
Le ministre burundais l'a annoncé ce mardi. Les trois écoliers qui sont en prison au nord du Burundi vont bientôt être libérés, mais les enquêtes vont continuer. Ces élèves âgés de 14 à 17 ans avaient été emprisonnés pour gribouillage des photos du président Pierre Nkurunziza. Elles risquaient jusqu'à 5 ans de prison et 250 euros d'amende. De nombreuses associations avaient appelé à leur libération. Le point avec notre correspondant Christophe Nkurunziza depuis Bujumbura.
Aimé Laurentine Kanyana a profité de son déplacement à la cour d'appel de Ndarangwa en zone urbaine de Ngagara pour annoncer que le parquet général près la cour d'appel de Ngozi au nord du Burundi a pris la décision de libérer Consolate, Belize et Micheline, trois jeunes écolières incarcérées depuis jeudi dernier pour gribouillage des photos du président Pierre Nkurunziza. Mais la ministre de la Justice a indiqué que des enquêtes se poursuivront mais que les jeunes écolières comparaîtront en étant libres. Tout en déplorant le fait que les enfants commettent des délits, la ministre Kanyana a insisté sur le fait que le président Pierre Nkurunziza mérite plus de respect de la part des adultes et des enfants. Affirmant que les enfants deviennent adultes à l'âge de 15 ans, la garde des Sceaux a appelé les parents à renforcer l'éducation dès le jeune âge. Ces trois écolières de l'école fondamentale d'Akamuri à Kirundo au nord du Burundi avaient été détenues au cachot du parquet de la province avant d'être transférées jeudi dernier à la prison de Ngozi, ville natale du président burundais. Bien d'associations pour la défense des droits des enfants appellent à leur libération immédiate. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Une force de sécurité mixte sera créée dans la province du Tibesti, dans le nord du Tchad. Elle a été installée hier par le ministre tchadien de la Sécurité publique, Mahamad Abali Sala, en déplacement dans la région. Cette force devra sécuriser la frontière avec la Libye, zone désertique où opèrent trafiquants, orpailleurs illégaux et rebelles. La force de sécurité mixte sera composée de gendarmes, de policiers et de militaires de l'armée tchadienne.
Le Niger et l'UNICEF ont lancé ce mardi dans la région de Tawa, dans l'ouest du pays, un système visant à utiliser le téléphone mobile pour lutter contre les maladies tueuses d'enfants. Mobile Health, c'est le nom du système déjà en place dans d'autres pays d'Afrique, doit prévenir les ruptures de stock de médicaments, surtout dans les contrées très isolées et à forte densité humaine. Selon l'UNICEF, cette phase pilote couvrira environ 165 villages, chacun situé à plus de 5 kilomètres d'une formation sanitaire et totalisant plus de 80 000 enfants âgés de moins de 5 ans.
Les Nations Unies annoncent l'envoi d'une équipe de 13 enquêteurs au Mali, composée d'experts des scènes de crime. Cette équipe enquêtera notamment dans la région de Mopti. L'envoi de cette équipe intervient après la tuerie perpétrée dans un village Peul du centre du pays par de présumés chasseurs Dogon. Une tuerie qui a fait 160 morts samedi dans le village d'Ogossagou, non loin de la frontière avec le Burkina Faso.
En Algérie, le chef d'état-major de l'armée a demandé mardi que soit engagée la procédure prévue par l'article 102 de la Constitution. Quand le président, pour cause de maladie grave et durable, se trouve dans l'impossibilité totale d'exercer ses fonctions, des centaines d'étudiants ont encore manifesté pour réclamer le départ du président Abdelaziz Bouteflika. Le point avec Nathalie Barge.
Il devient nécessaire, voire impératif, d'adopter une solution pour sortir de la crise, a déclaré le général Ahmed Gaït Salah, un fidèle de M. Bouteflika, dans un discours à la télévision nationale. Une solution est celle stipulée par la Constitution dans son article 102, a-t-il poursuivi, Cet article prévoit que le Parlement, sur proposition du Conseil constitutionnel, déclare à la majorité des deux tiers l'état d'empêchement lorsque le président, pour cause de maladie grave et durable, se trouve dans l'impossibilité totale d'exercer ses fonctions. Le président du Conseil de la Nation, la Chambre haute, prendra alors l'intérim pendant 45 jours. Hier soir, le porte-parole du Front de Libération Nationale, Hossein Khaldoun, a déclaré que le plan du président était la meilleure solution. Par contre, certains partis de l'opposition ont proposé une transition de 6 mois dès l'expiration, le 28 avril, du mandat du chef de l'État et une instance collégiale chargée d'organiser les élections. À Alger et dans d'autres localités, des corporations se sont joints aux étudiants pour réclamer encore le départ du président Bouteflika.
Les Comoriens attendent les résultats du premier tour de l'élection présidentielle dans un climat de tension entre le camp du président sortant Azali Assoumani et ses adversaires qui crient à la fraude. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
Les 12 adversaires du président sortant continuent de répéter que les résultats à venir sont nuls et non avenus. Ces résultats sont d'emblée rejetés, a déclaré le candidat du parti Djoua, Mahamoudou Ahmada, ajoutant, je cite, que la solution sage serait d'organiser dans les plus brefs délais des élections dignes d'un pays civilisé. Nous utiliserons tous les moyens civils pour nous débarrasser du pouvoir, a renchéri le colonel Swalihi Mohamed, un autre candidat. Hier, la gendarmerie a dispersé une manifestation d'opposants. Le ministre de l'Intérieur, Mohamed Daoudou, les a accusés de vouloir installer le désordre dans Moroni, affirmant que le pouvoir fera tout ce qui est nécessaire pour garantir la stabilité et la paix. La plateforme citoyenne, un collectif d'ONG, a affirmé que les résultats n'auront aucune crédibilité. Les observateurs de l'Union africaine et de la COMESA ont déploré des incidents lors du scrutin. Ils ont soutenu que la situation empêche de se prononcer de façon objective sur la transparence et la crédibilité du scrutin. Le camp présidentiel a balayé d'un revers de main toutes ces critiques.
Le Cameroun a besoin de près de 163 millions d'euros pour venir en aide à quelques 437 000 personnes déplacées par le conflit dans les régions anglophones du pays. L'appel a été lancé ce mardi par les Nations Unies à l'endroit des bailleurs de fonds. L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés dit vouloir dans l'urgence 31 millions d'euros afin de fournir une assistance humanitaire vitale à certains de ces déplacés. Pour le porte-parole du ACR à Genève, la situation humanitaire continue de se détériorer.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'administration américaine de Donald Trump a réitéré sa politique qui interdit déjà le financement d'organisations non gouvernementales étrangères soutenant l'avortement. Le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, a déclaré ce mardi que l'argent des contribuables américains ne sera pas utilisé pour financer l'avortement. Dès son arrivée au pouvoir début 2017, le président républicain avait remis en vigueur cette règle qui interdit d'allouer des fonds fédéraux à des ONG étrangères qui pratiquent l'avortement ou militent activement en sa faveur.
Le président français Emmanuel Macron a demandé mardi à la Chine de respecter l'unité de l'Union européenne mise à mal par la politique d'investissement tout azimut de Pékin. Pour sa part, le président chinois a assuré vouloir avancer ensemble avec l'Union européenne. Le point avec Eki Abadou.
La coopération rapporte plus que la confrontation, a déclaré Emmanuel Macron à l'issue d'une rencontre avec le président Xi Jinping, la chancelière allemande Angela Merkel et le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker. Nous avons des divergences, a souligné le président français, qui dit s'attendre à ce que Pékin respecte aussi l'unité de l'Union européenne. Les nouvelles routes de la soie sont un vaste programme pour la construction de routes, ports et des chemins de fer pour relier la Chine à l'Europe, au Moyen-Orient et à l'Afrique. Les puissances occidentales, États-Unis en tête, soupçonnent Pékin d'utiliser ce programme lancé en 2013 par le président Xi Jinping pour assurer son approvisionnement en matières premières et écouler ses surcapacités industrielles.
Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a prévenu qu'il était prêt à de nouvelles actions à Gaza, ceci après des frappes israéliennes en riposte à un tir de roquette qui a fait 7 blessés près de Tel Aviv.
Et puis le président iranien Hassan Rouhani a accusé mardi Donald Trump de colonialisme après la décision du président américain de reconnaître la souveraineté d'Israël sur la partie annexée du plateau syrien du Golan. De son côté, l'Arabie saoudite a fermement condamné la décision de Donald Trump, y voyant une violation du droit international.
La Turquie et la Russie ont lancé des patrouilles coordonnées dans la région de Tal Rifat, dans le nord de la Syrie, contrôlée par une milice kurde. Selon le ministère turc de la Défense, c'est pour garantir le cessez-le-feu, garantir la stabilité et prévenir les attaques. La Turquie a plusieurs fois menacé de lancer une offensive dans cette zone, mais Moscou s'y oppose.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOAfrique et voafrique.com.
L'actualité économique en Afrique, c'est dans la Minute Éco présentée par Nani Talani.
3 000 milliards de francs CFA, c'est le montant que les pays de la CEMAC dépensent par an pour importer de la nourriture. Cette dépendance de l'Afrique centrale aux importations alimentaires empêche les pays membres à assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Elle souligne aussi l'insuffisance des investissements dans l'agriculture, l'élevage, la pêche et l'aquaculture. C'est pourquoi, rapporte l'agence Ecofin, au mois de juin en Belgique, sera organisée une table ronde des donateurs afin de financer le développement des filières agricoles, piscicoles, aquacoles et agropastorales dans la sous-région. Le Libéria vient d'obtenir du Fonds international pour le développement agricole 24 millions de dollars pour développer son secteur arboricole, dont la performance a été durement touchée par la guerre civile qui a notamment conduit à la fuite des exploitants. Selon Ecofin, l'initiative ciblera principalement 10 000 producteurs de cacao dans le comté de Lofa, qui abrite 30% de la main-d'œuvre totale active dans la production cacaoyère. Pour terminer, les start-up africaines ont levé 1,16 milliard de dollars en 2018, soit une hausse de 108% par rapport à 2017, selon le fonds de capital risque Partech Africa. Preuve du dynamisme des start-up du continent, sur les 146 levées de fonds, 70 sont des rounds d'investissement en série A pour les sociétés au stade post-amorçage et série B, seconde levée de fonds pour les sociétés en processus de scalabilité, c'est-à-dire d'adaptabilité et de croissance.
Et c'est l'heure d'effort avec Yacouba Ouedraogo. Yacouba, bonsoir.
Bonsoir John, bonsoir à tous.
Le Rwandais Joseph Areruya sera au prochain départ de Paris-Roubaix.
Et oui, Joseph Areruya connaissait les pavés de Kigali. Il va désormais découvrir ceux de l'enfer du Nord. À 23 ans, le Rwandais va rentrer dans l'histoire du cyclisme de son pays et du continent africain. Le 14 avril prochain, à Compiège, traditionnelle ville départ de Paris-Roubaix, c'est la première fois qu'un coureur noir africain est prévu sur l'arène des classiques, avec ses 55 km de secteur caillouteux sur 257 au total. Cette course est une épreuve purement technique, une affaire de spécialistes. Jamais en 116 éditions, un coureur d'Afrique noire n'avait pris le départ de la plus dure et la plus atypique classique du calendrier mondial.
En football, Luis Enrique absent avec l'Espagne à Malte.
Oui, le sélectionneur espagnol ne dirigera pas la Rora à Malte lors de la deuxième journée des qualifications de l'Euro 2020 pour raison familiale de force majeure d'après la Fédération espagnole de football. C'est son adjoint Robert Moreno qui dirigera l'équipe. Vainqueur vendredi de la Norvège 2-1, la Rora cherchera à retrouver la confiance et l'efficacité à Malte, 182e au classement FIFA, mais qui a gagné son premier match des éliminatoires de l'Euro face aux îles Féroé, 2-1.
Patrice Evra poursuivi pour injures homophobes.
La plainte pour injures publiques à caractère homophobe a été déposée au parquet de Paris par les associations Stop Homophobie et Mousse, soutenues par le collectif Rouge Direct qui réunit les anciens du Paris Foot Gay, ex-club amateur de la capitale. Ancien capitaine de Manchester United, Patrice Evra s'est déchaîné sur les réseaux sociaux après la victoire des Mancuniens contre le PSG en huitième de finale de la Ligue des Champions. Il avait ensuite posté un nouveau message pour s'excuser, assurant ne pas être homophobe.
Et enfin, Conor McGregor annonce sa retraite.
Oui, à 30 ans, la star irlandaise des arts martiaux mixtes a annoncé qu'il met un terme à sa carrière dans ce sport de combat où tous les coups sont permis ou presque. J'ai décidé de me retirer ce jour du sport autrefois connu sous le nom d'arts martiaux mixtes, a-t-il écrit sur son compte Twitter. McGregor avait déjà annoncé en avril 2016 qu'il prenait sa retraite sportive avant de revenir sur sa décision. L'Irlandais a détenu le titre UFC des poids plumes de 2015 à 2016 et des poids légers de 2015 à 2018, mais c'est en participant à un combat de boxe anglaise face à la légende américaine Floyd Mayweather en août 2017 à Las Vegas qu'il a accédé à une notoriété mondiale et à la richesse. McGregor aurait touché plus de 30 millions de dollars pour ce combat qu'il a perdu par arrêt de l'arbitre à la 10e reprise.
Merci Yacouba. Vous écoutez chez Le Monde aujourd'hui sur VOAfrique, Abdourahmane Diaye et John Lyndon, toujours en votre compagnie à présent les dossiers du jour.
On commence par le Tchad où les victimes des crimes du régime de l'ancien président Hissène Habré multiplient ces derniers temps des actions pacifiques pour exiger l'exécution de l'arrêt de la Cour criminelle spéciale en mars 2015. 20 ex-agents de la DDS, la police politique de l'ancien régime, ont été condamnés pour torture, séquestration, détention arbitraire et autres crimes commis sous le régime de Hissène Habré de 1982 à 1990. Les victimes accusent les autorités judiciaires d'indifférence. André Kodmajingar fait le point depuis N'Djamena.
4 ans après la condamnation de certains de ces agents à des travaux forcés allant de 5 à 20 ans et d'autres à perpétuité par la Cour criminelle spéciale de N'Djamena, les victimes affirment n'avoir vu aucune volonté dans l'exécution de cette décision. Ni la saisie et la confiscation de leurs biens, ni l'édification d'un monument sur le site de la fosse commune à la sortie nord de N'Djamena en leur mémoire, moins encore l'ancien bâtiment de la DDS qui devra être transformé en un musée. Même la mise en place d'une commission qui sera chargée d'exécuter ce présent arrêt ordonné par la Cour tarde à voir le jour. Visiblement affaiblies, les victimes ne se découragent pas. Elles organisent des conférences et sittings pour se faire entendre. Coup de gueule de quelques-uns.
Presque 40% de ces femmes que vous voyez ici vêtues en noir, elles sont toutes malades. Il faut que les dommages soient versés. Mais là, depuis 4 ans, on attend.
Il faut que ça s'arrête. Ça fait 4 ans que le jugement a été fait.
Nous ne voulons pas insulter le gouvernement ni quoi que ce soit. Mais nous demandons la réparation.
On est vraiment désolé. Le gouvernement danse. Il tape le tam-tam. Il chante, lui seul. Et ça ne donne rien.
Ces ex-agents de la DDS sont condamnés a payé aux victimes une somme de 75 milliards de francs CFA à titre de dommages et intérêts. La Cour déclare l'État tchadien civilement responsable et doit s'exécuter à hauteur de 50%. Pour le président de l'Association des victimes des crimes du régime d'Hissène Habré, Clément Ndokot Abayfouta, non seulement la décision tarde à être exécutée, mais même certains condamnés sont en liberté.
Quelqu'un qui a violé votre sœur, votre mère, tué votre père, arraché tous vos biens, a été jugé, condamné et se trouve dehors, ça révolte. Est-ce qu'on a organisé le procès là pour cracher sur la mémoire des victimes ou alors pour plaire à l'opinion internationale? Nous ne pouvons pas comprendre que le gouvernement tchadien puisse ne pas respecter ses engagements et d'instaurer une impunité en plein soleil.
Clément Ndokot Abayfouta lance par ailleurs un appel à la communauté internationale d'aider les victimes qui meurent à petit feu d'entrer dans leurs droits.
Depuis qu'on n'a pas de premier ministre, nous ne savons pas qui est notre répondant. Et en ce moment, nous avons perdu à peu près 100 personnes parce que la maladie ronge les gens et puis les gens meurent. Moi, je crois que la communauté internationale, comme elle a fait pour le procès de Dakar, qu'elle utilise les moyens pour faire la pression sur le gouvernement tchadien afin que ces victimes puissent entrer dans leurs droits. Et si rien n'est fait, nous avons d'autres actions à mener jusqu'à ce que le gouvernement nous prête une oreille attentive.
Difficile d'avoir un répondant officiel. Sollicité à plusieurs reprises par VOA Afrique pour avoir les raisons de l'inexécution de cet arrêt rendu il y a 4 ans, les autorités judiciaires ne souhaitent pas se prononcer. André Kodmajingar N'Djamena, VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien 24h/24 sur VOA Afrique, N'Djamena au Tchad sur 93.1 FM.
Dans l'extrême sud-est du Niger, nouvelle incursion meurtrière de membres de Boko Haram. Ils ont tué une dizaine de personnes, incendié un marché et enlevé au moins 2 femmes. Idrissa Fall a fait le point. Idrissa Fall a fait le point avec Hissène Boukar, maire de la commune rurale de Guesguerou dans la région de Diffa, près du Nigeria.
s'est passé. Donc, c'était le samedi, puis au dimanche. Donc, au niveau de la commune, dans le village de Alaïminari, il y a eu des maisons qui ont été incendiées par les BH, et il y a eu 5 personnes qui ont trouvé la mort. Et au niveau de Ngagam aussi, c'était la même nuit. Donc, tout le marché a été brûlé. Il y a 6 qui ont été tués, 6 individus à Ngagam. Et ils ont enlevé 2 femmes. Ça, c'est la nuit du samedi au dimanche.
Et comment est-ce qu'on sait que ce sont des membres de Boko Haram?
Oui, bon, on les a dans la rue quand il y avait certains qui étaient regroupés. Mais selon le renseignement, eux, avec des tirs en l'air, ils font des flottants. Et ils ont des flammes, ils ont pris des bois. Quelques maisons sont là en train de mettre, c'est comme ça.
Et l'armée du Niger n'est pas présente sur place?
Quand on a eu l'écho, donc on les a informés. Donc, c'est-à-dire que quand ils viennent, parce qu'ils ne prennent pas le temps, dans 5-10 minutes déjà, dès qu'ils finissent, ils traversent. C'est comme c'est à côté de la Koumarougou. C'est à peu près à peine 5 km du bord de la Koumarougou. Et dès qu'ils traversent, ils sont dans un pays étranger.
Et après, quand ils font leurs attaques, ils retournent au Nigeria?
Ah oui, ils attaquent. Dès qu'ils attaquent, comme c'est à côté de la frontière, et dès qu'ils rentrent au Nigeria, là-bas, c'est eux qui contrôlent de l'autre côté.
La rivière Koumarougou, c'est la rivière qui sépare le Niger du Nigeria.
Voilà, c'est ça, la frontière artificielle qui sépare le Niger et le Nigeria. Maintenant, il n'y a pas l'eau, ça tarie, donc c'est pour eux. Ils peuvent traverser dans n'importe quelle direction.
Et quelle est la situation globale dans votre commune?
Bon, maintenant, il y a, compte tenu vraiment du choc, la population, il y a une partie qui est là rentrée, la plus grande partie sont rentrées à Difa. Il y en a d'autres qui sont partis un peu au nord, dans des villages, dans des parents et autres, dans des camps des parents.
Hissen Boukar, maire de la commune rurale de Guesquerou, dans la région de Difa, au Niger.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
La scène politique togolaise est en ébullition. La C14, la coalition de 14 partis de l'opposition, a explosé après la défection de plusieurs membres importants. Cette coalition avait vu le jour à la faveur des manifestations massives demandant le départ du président Faure Gnassingbé en 2017. Quelles sont les raisons de ce départ? Le processus politique va-t-il survivre ces dissensions au sein de l'opposition? Raissa Girondin a joint Dani Aïda, analyste politique et membre de la société civile togolaise.
Après les élections législatives du 20 décembre 2018, les membres de cette coalition s'attendaient plus sur beaucoup de questions, notamment leur participation au processus politique, puisque, vous savez, une partie de cette opposition était présente à l'Assemblée nationale avant, donc les rapports de force étaient différents. Et par la suite, le fait que l'opposition ait boycotté ces élections.
Certains leaders de l'opposition ont dit avoir pris de l'argent de l'extérieur. Pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé et est-ce que ça a jeté le doute sur l'intégrité de cette coalition?
Il y aurait eu des cadeaux entre griffes de certains chefs d'État de la sous-région africaine. Sinon, la répartition n'aurait pas été au bout de certains. On a vu d'autres qui n'ont pas infirmé cela, mais en même temps, on dit qu'il y avait d'autres raisons. Donc, notre équipe est confirmée, c'est que il y a deux partis qui formellement ont dit qu'ils quittent la coalition, y compris la ANC du Temple Fabre. Il y a aussi le parti des Togolais et Nathaniel Olympio. Beaucoup d'autres ne participent plus aux réunions. Donc je vois que la forme de discorde est allée assez loin.
Mais l'opposition togolaise a-t-elle les moyens de ses ambitions?
L'opposition est un homme battu, mais qu'elle n'arrive pas à capitaliser pour le moment, parce que sur le plan stratégique, on voit qu'elle a du mal à s'organiser et à formuler des propositions concrètes, par exemple en termes de suivi ou de pression pour la mise en œuvre des réformes pour lesquelles le pouvoir s'est engagé depuis longtemps. Ses relations avec la CEDEAO qui a formé des propositions pour la révision constitutionnelle, ses relations ne sont pas au bon fixe. Donc, je pense que l'opposition souffre surtout d'une carence en matière de stratégie. Mais on espère que les prochains développements, avec notamment le retour au Togo de la peine de l'intérieur qui est maintenant carrément inscrit dans l'opposition, François Boko pourrait contribuer à résorber cette situation.
Oui, l'ancien ministre François Bocco était en exil en France durant 14 ans. Quelles conséquences pourrait avoir ce retour sur la scène politique togolaise?
Pour avoir été un ministre de l'Intérieur, pour avoir appartenu au Fonds de défense et de sécurité du Togo, avec le soutien dont il a bénéficié de certaines diplomaties occidentales, on pense que c'est un acteur majeur dont l'implication dans les jeux politiques au Togo pourrait changer beaucoup les données. C'est quelqu'un qui ne nie pas avoir participé à ce pouvoir, à ce régime-là, mais qui aujourd'hui est carrément rangé du côté du peuple togolais, du moins d'une grande partie de la classe politique qui revendique des changements. Certains de ses proches ont même dit clairement qu'il doit se porter candidat pour l'élection présidentielle 2020. Je pense que ça va chambouler la géopolitique déjà nationale et puis les forces pourraient faire en sorte que l'alternance que les Togolais ont souvent revendiquée puisse enfin venir.
C'était l'analyste politique Dani Aïda.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique 24h sur 24 à Lomé sur 102.3 FM.
La pollution plastique continue de s'aggraver malgré les initiatives de lutte contre ce phénomène. De l'Afrique à l'Amérique du Sud, les efforts locaux pour collecter et éliminer les plastiques n'ont pas encore atteint les résultats escomptés, mais leur impact est croissant. Reportage de Kevin Enoch, le récit est d'Arzuma Compaoré.
Au Gabon, une armée de volontaires s'est réunie toutes les deux semaines pour nettoyer les plages de Libreville. Le réseau pour l'environnement et le développement est un groupe caritatif de 300 personnes qui souhaitent transformer les plages de Libreville en une destination touristique. Edou Raff est le responsable du réseau gabonais pour l'environnement et le développement.
On est nombreux, on le fait bien. Et puis après, on ne donne rien à personne. On est une ONG, on n'a pas de moyens, on ne donne rien à personne. Alors si on a la possibilité maintenant de donner au moins 100 000 francs aux gens, alors pourquoi ne pas organiser une toute petite compétition en sachant que non seulement ceux qui le font déjà de manière bénévole seront là, ils pourront être encore plus motivés, mais aussi ceux qui ne le font pas déjà. Donc ça nous fait un plus.
À l'heure actuelle, les déchets sont acheminés dans une décharge, mais le chef du groupe Edou Raff affirme que l'autre objectif, c'est de les recycler.
Toutes ces ordures vont se retrouver à la poubelle. On travaille avec la société de collecte et nous, on souhaiterait bien sûr transformer surtout les déchets plastiques parce que ça constitue une opportunité pour nous. Donc on est en train de travailler, tisser des partenariats à gauche et à droite pour que peut-être dans un mois, deux mois, on puisse transformer ces plastiques.
Et ici, le plastique atteint même les îles inhabitées du Galapagos au large des côtes de l'Équateur. Niché parmi les cormorans et les otaries, des volontaires ramassent des déchets des quelques 3 milliards de débris de kilogrammes jetés dans l'océan chaque année. Charline Zuniga est une volontaire.
Nous avons jeté tellement de déchets dans la mer qui ont fini par rejoindre les côtes inhabitées. C'est très triste de voir des animaux morts, voir des nids d'oiseaux qui sont mélangés avec des déchets.
Et ici, au Nigeria, la société Recyclers empêche les plastiques d'atteindre l'océan. La société collecte les déchets plastiques des habitants de Lagos en échange de points échangeables contre de l'argent, de la nourriture ou des articles ménagers dans les magasins locaux. C'est un marché en croissance. Bilikis Adebiya Abiola de Recyclers.
Il y a tellement de gens ici qui produisent du plastique et cela va continuer au cours des années à venir. Notre demande en plastique augmentera également. Ainsi, chez Recyclers, nous espérons un jour où nous aurons une économie circulaire où les déchets que nous générons sont recyclés et utilisés pour créer de nouveaux emballages.
On estime à environ 300 millions de tonnes la production annuelle de plastique dans le monde. C'est un problème qui ne disparaîtra pas avant des milliers d'années, mais ces volontaires essaient d'aider un déchet plastique à la fois.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler et participer en live en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h à 21h, temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h, temps universel, sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À la mise en onde de Sims Lumami, à la console Joubert Altaïb, présentation Abdourahmane Dia et John Lindon.
Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24 heures sur 24. À bientôt.
Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako, sur 102 FM. Raga FM, Kinshasa. Soleil FM, Conakry. 92.3 FM, Radio Wentanga. Wayeguya, Burkina Faso. Et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui, sur VOA Afrique.
VOA Afrique.